C'est quoi ça, les thérapies psychédéliques ?
Thérapie psychédélique. Ah, d'accord. Ah oui, on est en plein chamanisme là. Ces consommations permettraient de soigner l'addiction. Donc on se mord un peu la queue.
C'est Mathieu Noël, on a 20 minutes pour tout comprendre aux thérapies psychédéliques quand la drogue peut devenir un médicament. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et bonjour Lucie Berkovitch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Lucie, vous êtes psychiatre et chercheuse en neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous participez surtout à la mise en place d'études cliniques sur les effets thérapeutiques des psychédéliques en France. Vous allez donc tout nous dire des dernières avancées de ces thérapies impliquant l'utilisation de substances psychédéliques. Zoomons donc sur ces thérapies psychédéliques. Lucie Berkovitch, on est d'accord que la thérapie psychédélique, c'est pas pour soigner un mal de crâne, même persistant. C'est pas la peine que j'explique à la police que j'ai pris de la MDMA parce que le Doliprane ne faisait pas effet. C'est pas du tout ça l'idée.
Alors en fait, il se trouve qu'il y a quand même des études sur la douleur et notamment sur les maux de tête, donc c'est assez amusant que vous preniez cet exemple, mais c'est vrai que l'indication principale et celle en tout cas sur laquelle je travaille, c'est pour aider les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques.
D'accord. Et ça inclut, on va en parler pendant une heure, mais ça inclut la dépression ou c'est des troubles psychiatriques plus graves au sens...
Alors ça inclut la dépression, mais qui peut être extrêmement sévère et en l'occurrence, on utilise, ces thérapies sont à l'essai en tout cas pour des patients qui ont des dépressions qui ne répondent pas au traitement habituel.
D'accord, quand rien ne fonctionne, on
quand
tente
rien
ça.
Ne fonctionne, exactement. Et sinon, il y a les autres indications, c'est l'anxiété, notamment dans un contexte de fin de vie, donc en soins palliatifs, et effectivement les addictions.
Alors Cyril, je vous pose la question, car vous avez enquêté une fois de plus, d'où ça sort les thérapies psychédéliques ?
Eh bien, commençons par une petite opération de déconstruction. Ça ne vous fera pas de mal, Mathieu. Psychédélique, donc, ce n'est pas vieux comme terme et son histoire est amusante. Il est né d'un échange de poèmes entre l'écrivain Aldous Huxley et le psychiatre Humphrey Osmond. Huxley, j'en ai déjà parlé dans ce DCS, puisque c'est à lui qu'on doit le roman Le meilleur des mondes, publié en 1931, roman qui fait figure de toute première œuvre dystopique. Osmond, en revanche, n'a jamais eu les honneurs d'un d'où ça sort,
le pauvre.
Avant aujourd'hui.
Ah.
Comme quoi, tout vient à point, qui sait l'attendre.
Bien sûr.
Donc, ces deux-là s'échangent des poèmes. Nous sommes au milieu des années 50. Dans cet échange de missives, les deux Anglais cherchent une manière de désigner les substances qui ont des effets sur notre cerveau. Huxley forge alors un nouveau mot, une contraction de deux mots de grec ancien qui donne phanerotim, ce qu'on peut traduire par ce qui rend l'âme visible. Voici ce qu'écrit Aldous Huxley.
To make this trivial world sublime, take half a gram of phanerotim.
Pour rendre ce monde trivial sublime, prenez un demi-gramme de phanerotime. Et voici la réponse d'Osmond.
To fathom hell or soar angelic, just take a pinch of psychedelic.
Pour comprendre l'enfer ou devenir angélique, prenez juste une pincée de psychédélique. Et voilà, on y est. Le terme psychédélique est né. Nous sommes en 1957.
Ok, et concernant la thérapie psychédélique elle-même ?
Eh bien, ce qui est amusant, c'est que ces recherches sont apparues avant même que le terme, en fait, ne soit forgé par nos deux amateurs de poèmes. Dès la fin des années 40, aux États-Unis, on pratique la recherche sur les psychédéliques dans le domaine de la psychiatrie. Travaux qui vont nettement ralentir à partir des années 70. Mais depuis une vingtaine d'années, tout ça a repris, moins en France, mais on va en parler. Alors, est-ce que ces thérapies psychédéliques peuvent réellement soigner les gens ? Comment est-ce que cette pratique s'encadre ? Comment s'assurer qu'on ne fait pas un bad trip ? Quelles sont les drogues qui peuvent nous aider ? Comment Manon s'est sevrée de sa dépendance au LSD après le succès de Caresse du désir ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Je suis pas sevrée, mais bon.
Il n'y a pas eu de succès.
Merci Cyril. Lucie Berkovitch, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de plus sur cet échange entre Aldous Huxley et Humphrey Osmond ? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à mettre un mot pour parler de ces drogues ?
Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de terme et ils entretenaient une correspondance. Ils échangeaient autour de leurs expériences autour des psychédéliques avec Osmond qui était psychiatre et Huxley qui était donc écrivain, qui a d'ailleurs écrit Les Portes de la Perception, qui parle en détail d'un long trip à la mescaline. Et donc, ils cherchaient simplement à mettre un mot sur ces expériences-là.
Est-ce qu'on peut déterminer quelles sont les drogues qu'on regroupe sous ce terme psychédélique ? Pour les gens qui ne connaissent pas et qui mélangent un peu toutes les drogues, c'est mon cas, pas que je les ingère, mais que je les mélange dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est les psychédéliques ?
Alors c'est effectivement un ensemble de substances, parmi lesquelles le LSD, qui est probablement celle qui est la plus connue. Il y a les champignons hallucinogènes, dont le principe actif s'appelle la psilocybine. Il y a donc la mescaline dont je viens de parler, et aussi l'ayahuasca. Donc ça, c'est vraiment la définition assez restreinte, on va dire, des psychédéliques.
Et c'est quoi, par exemple, la différence avec l'héroïne ou la cocaïne ? Ça n'a rien à voir ?
Ça a de grandes différences, puisque en fait, ça n'agit pas du tout de la même manière au niveau cérébral, donc ça ne va pas activer les mêmes récepteurs, il ne va donc pas y avoir les mêmes effets, les mêmes conséquences, et notamment une différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de, véritablement d'addiction qui se développe lorsqu'on prend des psychédéliques. Les gens vont en général rester sur des consommations ponctuelles, or c'est l'un des problèmes principaux qu'on rencontre avec les gens qui consomment de la cocaïne ou de l'héroïne. Et puis l'autre chose, mais on va sans doute en reparler, c'est qu'il y a ces effets thérapeutiques potentiels.
Alors attendez, on ne va pas faire la promotion des drogues, on n'est pas là pour ça. On rappelle que toutes les drogues sont interdites en France. Néanmoins, je vous donne un exemple personnel. J'ai un ami qui travaille comme vous dans les neurosciences et qui est consommateur. On s'en fout, on ne va pas dire son nom, donc on peut le dire. Il m'explique très sérieusement que la MDMA ne crée aucune accoutumance et que bien dosée et quand on sait s'en servir, il n'y a aucun risque. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça ou est-ce que vous iriez vous estimez que c'est excessif?
En fait, le processus de l'addiction, c'est assez complexe et il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués. Il y a des effets vraiment très physiques avec parfois des symptômes de manque physique. C'est ce qu'on voit par exemple avec l'héroïne, mais aussi avec l'alcool. Et puis, il y a des effets qui sont plus psychologiques. C'est-à-dire des gens qui, en fait, vont apprécier les effets et vont vouloir renouveler
l'expérience. Oui, tout simplement, se dire mécaniquement, on veut revivre ça. Donc, il y a effectivement un risque d'addiction avec tout. Avec tout, en fait. Dès
quelque
qu'on
part,
aime quelque
oui.
Chose.
Après, on parle d'addiction quand il y a quand même des conséquences négatives et un impact sur le fonctionnement. C'est-à-dire que si vous aimez, je ne sais pas, beaucoup manger du poulet, mais que ça n'a pas de conséquences négatives sur votre vie, ce n'est pas forcément un problème.
Ça va pas fort en ce moment, soupçon de dépression, et si votre médecin traitant vous prescrivait un peu de LSD? Zoom aujourd'hui sur des thérapies encore interdites en France, mais qui existent à l'étranger, les thérapies psychédéliques. Lucie Berkovitch, vous êtes psychiatre et vous travaillez justement sur les effets de ces thérapies. Pour qu'on comprenne bien, comment ça se passe concrètement, une thérapie psychédélique? J'imagine qu'on nous donne pas juste du LSD comme ça et débrouillez-vous.
Oui, en effet. Donc, un point qui est très important, c'est qu'il y a toujours une psychothérapie qui accompagne l'administration de ces traitements. Donc, on ne donne pas ces traitements tout seul. Et ça, c'est déjà une rupture, en fait, avec les soins psychiatriques tels qu'ils sont pratiqués en majorité à l'hôpital aujourd'hui. Donc, il y a tout un processus de psychothérapie qui est extrêmement codifié, avec une préparation. On explique aux personnes les effets qu'il va y avoir. On essaie de voir aussi quelles sont les difficultés qu'ils voudraient pouvoir résoudre au gré de cette administration. Il y a un accompagnement pendant la prise de psychothérapie qui se fait dans une chambre un peu à part dans l'hôpital.
Ah, c'est pas à prendre chez soi
Ah non, c'est à l'hôpital. En tout cas, tel que c'est fait aujourd'hui dans les pays qui font ces études cliniques. Et puis ensuite, donc après administration, donc pendant toute la durée de l'administration, il y a ces effets qui sont assez forts et c'est d'ailleurs notamment pour des raisons de sécurité, qui a un accompagnement continu. Et par la suite, il y a une session d'intégration qui permet de reprendre un peu ce qui s'est passé et de consolider les effets des psychédéliques.
Et c'est pratiqué dans quel pays? Et est-ce que les drogues changent en fonction des pays?
Oui, la législation est très variable d'un pays à un autre, d'une époque à une autre d'ailleurs. Aujourd'hui, les études cliniques ont majoritairement été menées en Angleterre, en Suisse, qui a d'ailleurs un statut un peu particulier par rapport aux psychédéliques, et aux États-Unis. Mais il y a également des pays qui récemment ont légalisé l'usage médical des psychédéliques et de la MDMA, notamment l'Australie l'été dernier. Donc c'est vrai qu'il y a une disparité assez importante dans la possibilité d'administrer ces traitements, que ce soit dans le cadre d'études ou même dans le cadre de demandes exceptionnelles.
Je lisais Quentin. Qu'en Suisse, on appelle ça des chambres tripes. C'est le nom des chambres où on reçoit le traitement des thérapies. Ça ressemble à quoi les chambres? Elles sont décorées? Enfin, c'est des chambres d'hôpital?
Alors, c'est à l'hôpital. En tout cas, tel que c'est fait dans la majorité des études en Suisse, encore une fois, ça peut être fait dans des cabinets, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est dans un environnement qui se veut un peu plus accueillant, un peu moins austère que l'hôpital classique, où il peut y avoir des éléments de décoration. Et les personnes, on leur met un masque de sommeil sur les yeux pour qu'ils puissent être dans un processus d'introspection. Et il y a souvent de la musique aussi, donc au casque. L'idée, c'est vraiment que la personne puisse faire un retour sur soi et travailler ses difficultés sous l'effet des psychédéliques.
Moi, ce que j'ai lu juste sur le LSD notamment, c'est le côté hallucinogène, je ne sais pas comment on dit, de cette drogue. C'est ce qu'on cherche en fait chez le patient.
Alors initialement, il y avait cette idée, en effet, que c'était cet état un peu second qui allait permettre un certain nombre de changements. Et d'ailleurs, une des particularités, on y reviendra peut-être, c'est que par rapport au traitement classique, il y a un effet qui apparaît tout de suite et qui va être durable. Donc ça, c'est vraiment une singularité qu'on essaye de comprendre aujourd'hui. Néanmoins, pour certaines personnes, ces effets subjectifs peuvent être plutôt considérés comme des effets secondaires, puisque ça peut être désagréable, ça peut contre-indiquer le traitement pour certaines personnes, ça peut tout simplement faire peur. On a aujourd'hui en train d'essayer de comprendre le rôle de cette expérience dans les effets thérapeutiques et de savoir si c'est véritablement à travers ces effets qu'il y a une efficacité, mais on n'en est pas du tout sûr.
Et parce que j'imagine qu'effectivement, c'est le problème de l'encadrement. C'est-à-dire que manipuler des drogues, c'est toujours dangereux, même si c'est dans un but thérapeutique. Il faut toujours être extrêmement encadré, parce que si vous prenez du LSD dans la rue, vous pouvez halluciner et vous faire écraser par une voiture, non ?
Oui, tout à fait. Il y a une distinction assez nette entre l'usage qui est fait dans un cadre médical avec donc un protocole qui doit être respecté, cet accompagnement, le fait que ce soit des produits aussi qui soient purs, vérifiés, ce qui n'est pas le cas quand on se fournit dans le cadre d'achats illégaux. Donc il y a une distinction entre cet usage médical et l'usage récréatif qui, en effet, qui est associé à des risques qui sont fortement minimisés, voire annulés dans le cadre médical.
Vous parliez de la psilocybine, c'est ça, cette molécule. Si j'ai compris, elle active les récepteurs de la sérotonine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. La thérapie psychédélique, elle vise à nous remettre dans un état de bonheur ou à déclencher de la sérotonine. C'est biologique, c'est comme ça en fait.
Il y a un effet biologique direct, puisque d'ailleurs c'est ce qui est le point commun pharmacologique des psychédéliques, c'est qu'ils vont tous aller activer ce récepteur à la sérotonine qui s'appelle le récepteur 5-HT2A, mais il y a plusieurs récepteurs à la sérotonine. En tout cas, il se fixe sur ce récepteur, il va l'activer, donc il va se substituer à la sérotonine. Et ça, c'est d'ailleurs un point de différence avec à la fois d'autres substances, par exemple la MDMA ou même les antidépresseurs qui utilisent la sérotonine que le cerveau fabrique. Donc là, il y a vraiment un effet de supplémentation. Et en effet, ça s'est associé à un vécu émotionnel qui est souvent décrit comme très agréable par les usagers.
J'aimerais juste qu'on revienne sur ce que ça soigne. C'est-à-dire, on parlait d'état dépressif grave. Il y a d'autres pathologies que ce traitement peut soigner ?
Oui, donc la dépression, l'anxiété chez des personnes en fin de vie, et d'ailleurs ça faisait partie des premières études, donc des gens qui sont en soins palliatifs, qui peuvent avoir des angoisses de mort qu'on comprend assez bien. Et puis les addictions, avec maintenant plusieurs études qui montrent que chez les gens qui ont une consommation problématique d'alcool, chez les gens qui fument et aussi avec d'autres substances, il y a une réduction très importante des consommations, même fortuite parmi des usagers, après la prise de psychédéliques.
Oui, mais comme vous le disiez, on peut imaginer que le serpent se mord de la queue à un moment, puisque même si, admettons que la MDMA soit effectivement pas addictive, en soi, l'effet produit étant tellement agréable, visiblement, on est une addiction à cet état dans lequel nous plonge la substance psychédélique. Et donc, on est envie, tout simplement, de reproduire cet état de plus en plus. Et on n'est plus alcoolique, mais on devient accro au psychédélique, non ?
Alors, c'est en fait pas ce qu'on observe. C'est-à-dire que les gens qui prennent des psychédéliques, donc à ces doses, encore une fois, qui entraînent des effets importants, la première chose, c'est que les effets sont très longs dans le temps. Pour l'immense majorité des psychédéliques, on parle de 4 à 5 heures, pour 4 à 6 heures pour les champignons hallucinogènes, de 10 à 12 heures pour le LSD ou la mescaline. Donc, c'est pas non plus des choses qu'on a envie forcément de répéter très souvent. Et puis, ces effets qui sont très intenses, ces modifications perceptives sont quand même assez peu compatibles avec la vie quotidienne. Donc, ça s'intègre assez mal.
Oui, ça doit rester exceptionnel.
Et donc, en fait, les gens sont plutôt dans des consommations occasionnelles quand ils les répètent. Et la plupart des gens, en fait, ont des consommations extrêmement ponctuelles. C'est ce qu'on observe, en tout cas.
On rappelle, parce que tout à l'heure, apparemment, j'ai été pas clair là-dessus, la MDMA, c'est une substance psychédélique.
Alors, c'est un apparenté, en fait, ça agit pas tout à fait de la même manière, mais c'est utilisé de la même manière pour traiter l'état de stress post-traumatique. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas mentionné dans les indications des psychédéliques purs.
D'accord.
Ça agit pas tout à fait pareil sur le cerveau, mais c'est vrai que là, ça a un peu un statut identique. Et d'ailleurs, c'est probablement la substance qui va être peut-être utilisée et validée en premier.
D'accord. Et pour parler des thérapies psychédéliques, Quentin, vous êtes allé interroger les gens dans la rue.
J'attrape justement un café non loin de Place de Clichy. Je regarde la rue et je rencontre ce monsieur qui sort du kiosque à journaux, les mains dans le dos, un peu voûté. Sa femme me fait signe qu'elle veut pas répondre. Lui, oui, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Henri. Ah, j'ai 86 ans.
Et vous avez le Figaro dans la main ?
J'ai le Figaro dans la main. Je l'ai d'ailleurs depuis assez longtemps. J'achète le Figaro au numéro et investir le samedi.
Dans quoi vous avez travaillé ?
J'étais banquier.
Ah tiens, tu penses, évidemment. Alors Henri, qui suit l'actualité, a-t-il entendu parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui ?
Thérapie psychédélique, ah non, j'ai pas lu. C'est bien de vous voir la renseigner.
Ça fait peur.
On observe quand même qu'il y a de plus en plus de gens addictifs à la drogue, surtout des jeunes.
Mais là, c'est pas la consommation, c'est une thérapie qui serait encadrée par des médecins.
Oui, c'est ce qu'on dit au début. C'est encadré par des médecins, vous allez avoir forcément des débordements.
Voilà, pour Henri, c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Je lui parle des témoignages que j'ai lus de patients dans une clinique en Suisse, une sorte de voyage intérieur, d'hallucination qui débloque des choses. Et voilà qu'Henri me confie une expérience personnelle.
Mais vous savez, vous avez même ça. J'ai eu ça l'autre jour. J'avais pris un truc pour dormir.
somnifères.
Somnifères. Je me réveille, je commence à me réveiller. J'avais l'impression qu'il y avait du monde dans ma chambre. Alors qu'en dehors de ma femme, il n'y avait personne.
C'était peut-être du LSD, non?
Non, pas du tout.
Bon, alors vous n'êtes pas prêt pour la thérapie psychédélique?
Non, absolument pas.
Oh, on va pas, ce ne sera pas le patient zéro en France, Henri. Elle, elle me demande son chemin avec son smartphone ouvert sur l'appli Itinéraire. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
On va prendre le bus ensemble.
Exactement.
Quel est votre prénom?
Corinne.
Vous avez quel âge, Corinne?
Je vous le dis pas.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je vous le dis pas.
Ok.
Mais vous êtes qui, vous, d'abord?
Moi, je suis Quentin Lui.
Et vous bossez pour
Mathieu Noël et Zoom Zoom Zen et France Inter.
D'accord.
Alors Corinne a-t-elle vu... Alors Corinne, a-t-elle vu passer notre sujet du jour? Je lui sors un article.
Thérapie psychédélique. Ah, d'accord. Ah oui, on est en plein chamanisme là. Et l'addiction.
Ouais.
Surprenant.
Pourquoi?
Ben parce qu'on a tendance à penser que ces consommations sont addictives. Et là, si j'ai bien lu en diagonale... Ces consommations permettraient de soigner l'addiction. Donc on se mord un peu la queue.
Oui, est-ce que nous ne sommes pas dans une époque contradictoire? D'un côté des expérimentations psychédéliques et un ministre de l'Intérieur qui dit que la drogue c'est de la merde.
Je crois pas que ce soit contradictoire, non. Dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre notre ministre?
Ah oui, que la drogue c'est mal?
Bah oui, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Et puis il y a une différence entre une consommation dans un cadre encadré et une consommation des gens qui sont foutus par la fenêtre parce qu'ils avaient pris un petit pet en trop, on en a tous connu. Hein.
Vous avez déjà pris des substances?
Oui. Je vois pas ce que ça pourrait débloquer en thérapie me concernant.
Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous?
Une super acuité auditive. Ah, vraiment, la musique phénoménale. Mais voilà, j'ai vécu.
Je laisse partir Corinne, je monte dans le bus. De son pote, ça se voit, ils se marrent pendant leur pause. Alex et Tania découvrent...
Thérapie psychédélique.
Ça me parle pas du tout.
L'utilisation de drogue pour la thérapie? Ah ben voilà, exactement. LSD, DMT, mescaline et MDMA. Ça peut être quelque chose, mais il faudrait un dosage très limité et il faut vraiment que ce soit surveillé, entouré, très très encadré. Ouais.
Est-ce que vous pouvez comprendre que des substances peuvent aider? Est-ce que vous avez essayé des trucs, vous?
Une fois, j'ai pris du LSD. C'est très déconseillé quand le dosage n'est pas bon et quand on est mal encadré.
Ça a été votre cas?
Ça a été mon cas, ouais.
Tania écoute attentivement Alex et réagit sur cette question délicate: que sont les drogues thérapeutiques dans notre société?
Bah, je trouve que c'est hyper tabou quand on parle de ça, par exemple de cannabis, alors que les gens en parlent de plus en plus et que dans certains pays c'est légal. Je pense juste qu'il faut savoir bien gérer la chose et oui, être cadré. Faut peut-être pas dire ça, mais il y en a plein qui en prennent en France et il y en a, ça les aide au niveau des maladies.
Moi je suis d'accord. Après, le seul problème, et ça je sais pas comment le gérer, c'est comment faire après pour que les personnes ne tombent pas dans l'addiction quand ils sortent, après quand ils se retrouvent tout seuls. Après avoir essayé. C'est ça le souci que j'ai.
Hors de question pour les uns, pas forcément contradictoire avec la prévention anti-drogue pour les autres, mais des inquiétudes sur le dosage, sur la dépendance à ces substances qui gravitent, qu'on le veuille ou non, autour de nous dans notre société. Alors, la thérapie psychédélique, mauvais trip ou avenir de la santé psychiatrique, sympathique.
Toujours cette conclusion ribée. Décidément, Quentin, votre modernité n'a
rien. Ça s'appelle une allitération.
Cesse de me décoiffer.
La fontaine.
La fontaine, on va vous appeler comme ça. On zoome aujourd'hui avec vous, Lucie Berkovitch, psychiatre à Sainte-Anne, sur ces nouvelles thérapies psychédéliques. J'aimerais qu'on revienne sur l'expression qu'on entend beaucoup dans les milieux bobos, il faut bien le dire, et ceux qui ont des amis qui reviennent de Californie. C'est quoi le microdosage? Est-ce que le microdosage, c'est lié à cette thérapie psychédélique?
C'est une pratique qui est en fait assez différente et d'ailleurs à ce jour il n'y a pas eu d'études sur l'effet du microdosage ou microdosing dans le traitement des troubles psychiatriques, mais il s'agit de prendre des petites doses de psychédéliques qui vont pas avoir des effets hallucinogènes et qui vont être prises de manière répétée, donc à quelques jours d'intervalle pendant plusieurs semaines avec des temps de pause. Donc c'est quand même très différent d'un usage pour un trip où on prend une dose pleine unique.
Oui, parce que pour refaire un petit point là-dessus, ce dont on parle aujourd'hui, les thérapies psychédéliques, c'est on prend une forte dose.
On prend une dose normale entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas une microdose. Une microdose, c'est un dixième, un vingtième de la dose.
Et est-ce qu'il est demandé aux patients avant s'ils ont déjà pris de la drogue?
Dans les études, c'est une question qui est posée et on tolère, entre guillemets, que les gens aient pu avoir une expérience avec des psychédéliques, mais pas récentes et pas dans un cadre d'automédication pour l'épisode actuel.
Et si on n'en a jamais pris, on peut quand même le faire?
Oui, on peut quand même le faire. Et d'ailleurs, c'est une expérience que nous on rencontre aussi avec la kétamine, qui est maintenant un traitement validé de la dépression résistante, qui est aussi une substance qui est prise dans un cadre récréatif et que l'on donne à des patients qui parfois n'ont même pas déjà bu un verre d'alcool.
Mais on n'est pas tous égaux, puisque Henri a pris un somnifère, il a vu des gens dans sa chambre avec sa femme.
Imaginez si Henri...
Si Henri, on lui met une dose, je pense que ça se passe pas très bien. À quel âge, jusqu'à quel âge on peut le faire ?
Alors, ce que décrit Henri, c'est en fait quelque chose qu'on connaît, un effet indésirable d'un hypnotique, d'un somnifère, qui est d'ailleurs pris parfois par certaines personnes pour ses effets hallucinogènes. Donc, c'est pas quelque chose qui est inconnu du monde médical. Maintenant, vous avez raison, c'est pas pour tout le monde. Il y a un certain nombre de contre-indications. Et d'ailleurs, dans les études, les personnes sont soigneusement sélectionnées pour ne pas avoir de facteurs de risque. Et puis, il faut que ces personnes soient volontaires, qu'elles se sentent prêtes, et on les prépare d'ailleurs aux effets des psychédéliques.
Quelles personnes n'ont pas le droit de le faire ? Vous avez une liste ?
Oui, les personnes qui aujourd'hui ne sont pas éligibles aux études, c'est les personnes qui ont déjà eu des épisodes psychotiques ou des symptômes psychotiques, c'est-à-dire des hallucinations, des idées délirantes sans prise de substance, pour qui il y a des membres de la famille qui ont pu avoir ce genre de difficultés. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont pas incluses dans les études parce qu'on pense qu'il y a un risque surajouté qu'ils développent ce type de symptômes, même au-delà de la prise de psychédéliques. Après, il y a une population qui est un peu particulière parce qu'à la fois, ça pourrait être des gens qui recevraient des psychédéliques et à la fois on est très attentif, c'est les gens qui ont un trouble bipolaire, vous savez, l'alternance, donc qui peuvent avoir des dépressions, donc c'est une indication potentielle des psychédéliques, mais qui peuvent aussi faire des épisodes d'excitation, d'euphorie, avec des troubles du comportement parfois très, très sévères. Et donc on craint que ces personnes puissent développer un épisode d'excitation après la prise de psychédéliques, puisque c'est ce qu'on observe d'ailleurs avec les antidépresseurs quand il n'y a pas de traitement qui permet de contrôler l'humeur.
On zoome sur ces thérapies psychédéliques aujourd'hui, pas encore autorisées chez nous, on l'a dit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque en France ?
Alors, en fait, en France, un petit détail, c'est qu'il y a une étude qui a commencé de manière tout à fait récente, là, il y a quelques semaines, avec la psilocybine dans le trouble lié à l'usage de l'alcool. Donc, je salue l'équipe de Nîmes qui est à l'origine de cette étude. Donc, ça vient tout juste de commencer et on va probablement voir d'autres études démarrer dans le courant de l'année. Ce qui fait que ça a pris un peu plus de temps, c'est que c'est vrai que nos amis anglo-saxons étaient très intéressés par la question et se sont mis au travail vraiment très tôt. Pareil pour les Suisses, qui dès les années 90 avaient repris les études, même des études fondamentales, où on essaie de regarder un peu comment ça marche simplement sur le cerveau sans chercher forcément à les utiliser à des fins thérapeutiques. C'est compliqué de savoir pourquoi la France est en retard.
Mais il y a peut-être un problème culturel, tout simplement. Genre une espèce de tabou culturel, parce qu'en France, l'alcool est autorisé, et le vin, on le boit. Il y a des études qui montrent que les parents n'ont pas de mal à faire goûter du vin à Noël à leurs enfants. Ça leur paraît tout à fait normal. C'est addictif, ça a des conséquences terribles pour la santé aussi. C'est juste que culturellement, c'est notre pinard, donc on n'y touche pas. Est-ce qu'avec le recul de scientifique que vous avez, vous vous dites tout ça est un peu absurde? On devrait, au moins dans des études encadrées, bien sûr, voir ce que ça donne sur certaines maladies.
C'est effectivement, en tant que scientifique, on est toujours un peu en décalage avec les habitudes culturelles, et vous avez raison, il y a un poids culturel très important dans le regard que l'on porte sur les substances et sur leur dangerosité. Et comme vous le dites, l'alcool, qui est un produit en fait extrêmement dangereux, est consommé de manière quotidienne par les Français. C'est plutôt qu'on vous demande pourquoi vous buvez pas d'alcool.
C'est ça
la question. Pour les psychédéliques, c'est un peu différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de la prohibition, il y a eu quand même énormément de tapage médiatique sur la dangerosité des psychédéliques, et ma collègue Zoé Dubus, qui est historienne des psychédéliques, en parlerait bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça a été extrêmement diabolisé dans la société française, et on l'entend d'ailleurs aussi dans votre micro-trottoir, où on voit que les gens ont quand même une perception très négative, ce sont des substances qui font extrêmement peur, et la science peine à se faire une place et à montrer des résultats qui sont objectifs, en fait, scientifiques, et qui sont assez loin, en fait, des préjugés dans la société.
Manon.
Mais chez nous, les thérapies, par exemple, sous hypnose, elles sont autorisées. Est-ce que ça se rapproche d'une thérapie psychédélique ?
C'est une question très intéressante parce qu'en effet, l'hypnose entraîne un état aussi modifié de conscience. Donc, on est dans un état un peu différent. Et d'ailleurs, les dérives que l'on peut craindre des études qui utilisent la thérapie psychédélique peuvent aussi se porter sur l'hypnose avec des risques de dérive, des risques d'emprise, ce genre de choses, effectivement, qui là aussi contribuent à la peur que l'on peut avoir de ces nouvelles thérapies. Donc vous avez raison, il y a des points communs. Après, les effets cérébraux de l'hypnose et des psychédéliques sont différents. Et c'est vrai que les psychédéliques, il y a quand même cette action directe dont on a déjà parlé, qui pourrait, en tant que telle, cette activation de ces récepteurs, ce dont j'ai pas parlé aussi, c'est le fait que, en fait, ça va favoriser la croissance des neurones, la connectivité physique des neurones.
Génial,
donc les neurones vont plus se connecter, même structurellement, physiquement, pendant la prise et puis ensuite dans les semaines qui suivent. Et on pense que c'est l'un des mécanismes qui est impliqué dans les effets thérapeutiques.
Qu'est-ce qu'on constate concrètement chez les patients sur qui ces thérapies sont testées? Est-ce que on constate du mieux? Ça marche?
Oui, alors il y a plusieurs études, donc les résultats sont pas toujours parfaitement alignés, mais ce que l'on observe dans le champ de la dépression, c'est selon les études entre 30 et 50% de disparition des symptômes tout de suite. Il y a même des études qui vont jusqu'à 70%, mais parfois qui sont aussi un peu moins contrôlées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de comparateur placebo, donc il peut y avoir un effet placebo qui se surajoute. Donc en fait, des gens qui vont mieux immédiatement après la prise, pendant des semaines, des mois, voire des années, puisque maintenant on a quand même un recul de plusieurs années sur ces études, alors qu'ils n'avaient répondu à aucun traitement. Pour l'alcool, on est sur une diminution du nombre de verres consommés par jour chez des gens qui sont des gros consommateurs d'alcool, donc une division par 5 du nombre de verres consommés de manière stable, après une prise de psilocybine. Pour les fumeurs, on a 80% d'arrêt du tabac, et à plusieurs années après, 60% de gens qui n'ont pas repris le tabac. Et l'anxiété, on est sur une diminution de plus de 60% des symptômes anxieux. Donc c'est vraiment des effets qui sont majeurs, immédiats et durables.
Ce que vous nous dites, Lucie, c'est que dans quelques années, une fois que les études seront toutes validées et que le tabou français aura été brisé sur cette question-là, ça sera quelque chose de banal de se faire prescrire du LSD ou un dérivé, je ne sais pas comment on l'appellera, pour traiter une situation de dépression chronique.
C'est difficile à dire parce que, comme on l'a dit, il y a quand même besoin d'un dispositif assez important autour de cette prise de psychédélique, et notamment du temps humain et relationnel. Et c'est d'ailleurs un peu une opportunité pour nous en psychiatrie de se dire qu'on va remettre la relation et le soin relationnel au cœur de notre travail, quelque part. Mais ça coûte quand même de l'argent et ça va rendre ces traitements pas forcément très accessibles. Donc il faut voir comment on arrive à les intégrer dans l'organisation de l'hôpital qui, comme vous le savez, aujourd'hui est plutôt sur en crise avec des moyens qui débordent.
Mais en France, quand le gouvernement, et notamment Gérald Darmanin, dit que la drogue, c'est de la merde, est-ce que ça ne vous fait pas être pessimiste aussi sur l'avancée des recherches sur cette forme de thérapie ?
De manière générale, je suis pas sûre que ce soit la bonne approche que de juger la drogue ou en tout cas les personnes qui les consomment, parce que finalement c'est avant tout un problème de santé publique. Hein, pour travailler un peu en addictologie, les personnes sont prisonnières de ces consommations. Et puis surtout, ce qu'on appelle drogue est aussi un peu un fourre-tout. Moi, j'ai plutôt tendance à pas utiliser ce mot pour les psychédéliques, puisqu'on a vu que sur le plan des addictions, ça avait pas du tout le même profil que d'autres produits, et donc un retentissement qui est en fait très différent sur la vie des personnes, même qui expérimentent ou qui en prennent ponctuellement. Donc c'est vrai que, oui, je dirais mon approche par rapport à la drogue, c'est plutôt d'essayer de réfléchir à des politiques de prévention, d'accompagnement des usagers, tout simplement.